On passe de façon rythmée, vous le voyez, hein, merci beaucoup, les participants à la quatrième table ronde, troisième pardon, vont me rejoindre. On va évoquer le thème général de la ville verte et des questions climatiques avec une entrée sur la végétalisation avec M. Valéry Masson qui est donc au centre de recherche de Météo France, avec Frédéric Ségur qui est une autre grande ville française à la Courly, peut-être bientôt à la métropole donc, de Lyon, M. François Lassalle, de l'Association des toitures et façades végétalisées, M. Thierry Muller, à la tête d'une entreprise d'ingénierie et de travaux de paysage, et M. Michel Le Sommer, de Le Sommer Environnement, qui me demandait par SMS d'ailleurs, ou qui insistait par SMS sur le fait qu'il fallait taxer le carbone. Et comme ils sont cinq, je vais me lever. Voilà. Non, mais il y a une chorégraphie que j'improvise. Voilà. Alors, qui veut le Pavlov pour faire un petit peu de PowerPoint, mais très léger, Monsieur Masson. Voilà. Vous avez droit à 2-3 minutes, d'ailleurs, puisque vous aviez insisté, d'ailleurs. Je crois que c'est en appuyant sur la touche verte que ça avance, et en appuyant sur la touche jaune que cela recule sur la question d'adaptation des villes au changement climatique. C'est quand même un beau sujet. Voilà, chacun a sa belle place.
Donc, bonjour. Donc, je suis Valérie Masson, donc chercheur au Centre national de recherche météorologique à Toulouse. Et donc, je travaille sur l'adaptation de la ville au changement climatique. Donc, je vais d'abord vous présenter quelques slides pour présenter un peu quelques rappels sur, d'une part, le réchauffement climatique et, d'autre part, le climat urbain, parce que c'est deux choses différentes. Donc, c'est des projets, comme on travaille sur la ville, ce n'est pas Météo France qui travaille tout seul sur la ville, mais on travaille avec beaucoup de partenaires dans des études interdisciplinaires, donc avec beaucoup d'instituts qui sont présentés là. Donc, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est d'abord un phénomène global. Ça touche l'ensemble de la planète. On ne connaît pas actuellement l'intensité du réchauffement climatique qu'il y aura à la fin du siècle ou dans deux siècles, parce que ça dépend principalement des émissions de gaz à effet de serre et donc des politiques mondiales qui vont être prises par les instances politiques des divers pays. Et ça, on ne sait pas ce que ça va être. Donc, il y a une grande incertitude sur l'intensité du réchauffement climatique, mais on peut dire que ça sera sans doute de l'ordre de plusieurs degrés. Donc, le réchauffement climatique, donc, comme je l'ai dit, c'est lié au gaz à effet de serre et au CO2. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu dans le paysage. Mais là, on parle de la ville. Et donc, la ville, il y a aussi autre chose qui est le climat en ville. Et le climat en ville, ce n'est pas la même chose que le climat à la campagne. Quand vous êtes en ville, vous avez sûrement déjà vécu ça personnellement avec, je ne sais pas, le thermomètre de votre voiture quand vous faites des mouvements pendulaires entre la campagne ou la zone périurbaine et le centre-ville. Il y a parfois plusieurs degrés de différence. Donc plusieurs degrés de différence, ça peut être vraiment beaucoup. Donc c'est par exemple, pour une agglomération comme Paris, quelquefois, il y a 10 degrés de différence entre le centre-ville et les zones rurales. Donc, par contre, c'est beaucoup, mais c'est récurrent, mais ce n'est pas permanent. C'est en général la nuit. Et il y a des jours où il n'y a pas d'îlot de chaleur du tout. Urbain,
voilà. Je vous coupe pour mettre un peu l'ambiance là. Sur ces 10 degrés de différence, est-ce que si on végétalise Paris, au maximum, on arrive à baisser sensiblement cette différence ?
Non, mais je ne vais pas le dire tout de suite, parce que sinon, vous me cassez tout.
Bah, c'est ce que je suis en train de faire, ouais. Mettre du rythme.
Voilà, donc effectivement, si on végétalise, on a fait l'étude, par exemple, sur donc, la consultation du Grand Paris, donc, qui était avant le projet donc, du Grand Paris et du métro. Donc la consultation des équipes d'architectes, on avait participé à cette consultation, et on avait montré qu'en période de canicule, végétaliser l'extérieur de Paris, rajouter des forêts, par exemple, relier la forêt de Sénart avec la forêt de Fontainebleau, et puis les forêts qui sont plus à l'est, et aussi favoriser l'agriculture maraîchère en zone périurbaine, permettait de diminuer la température de 2 à 3 degrés sur la zone urbaine. Donc, on peut, avec la végétation, atténuer cet îlot de chaleur. Alors, pourquoi ? Donc, tout d'abord, ce n'est pas le CO2 qui cause l'îlot de chaleur urbain. Donc là, il y a souvent un raccourci qui est fait. CO2 égale réchauffement climatique. Donc, les villes émettent du CO2. Donc, c'est ça qui crée l'îlot de chaleur urbain. Non. Donc, On peut dire je vais rajouter de la végétation en ville pour réduire mon îlot de chaleur parce que mes plantes vont capter du CO2. Ça, c'est faux.
Michel Le Sommer, tout à l'heure, par SMS, c'est un des seuls à avoir signé son SMS, me disait qu'il fallait taxer le carbone.
C'est tout à fait, c'est exactement la question des politiques mondiales qui vont être mises en œuvre ou pas dans le futur. C'est exactement la problématique à grande échelle.
Je pense que s'il faut donc mettre en place des cycles courts, des circuits courts, et c'est ce qui a été fait en France, hein, donc il y a un peu de mal pour que ça passe, et il faut taxer le carbone. Donc mon agence, on a fait donc un bilan, analyse du cycle de vie du kilo de tomate donc, à Paris, et on voit bien que finalement, le fait que le coût de l'énergie, transport et les incidences surtout ne soient pas réellement pris en compte, finalement, ne favorise pas les circuits courts. Je vous laisse continuer.
Et votre taxe carbone, vous la faites à quelle échelle ? Urbaine, nationale, internationale ?
Il faudrait qu'elle soit internationale, bien sûr. Et c'est toute la difficulté donc, de la gouvernance mondiale.
Bien sûr, mais vous savez que c'est plus facile de faire une taxe locale que de faire une taxe internationale.
Oui, c'est bien le problème.
Bon, monsieur Masson, je vous en prie.
Et donc, effectivement, on peut dire qu'on rajoute de la végétation en ville pour limiter l'eau de chaleur urbaine parce que la plante, elle transpire et elle évapore de l'eau. Donc ce qui revient, qui fait le lien entre végétation et eau, et ce qui nous fait le lien avec la table ronde précédente aussi. C'est-à-dire que c'est surtout l'effet d'eau et végétation qui est importante pour limiter cet îlot de chaleur urbain. Et donc quand on parle d'adaptation de la ville au changement climatique, donc, il y a plusieurs stratégies. Il y en a une qui est très simple pour le confort de l'habitant, c'est la climatisation. C'est très rapide. En quelques mois, hop, on peut climatiser plein d'appartements et on est dans une confortable. L'inconvénient, c'est que la climatisation, ça prend la chaleur à l'intérieur et ça la rejette dehors. Et donc, on doit climatiser plus. Donc, il y a d'autres stratégies, et dont donc, certaines sont listées là, en particulier sur la végétation urbaine à différentes échelles, soit à l'échelle donc, de l'îlot ou du projet, ou à l'échelle, donc, comme j'ai parlé, du Grand Paris, qui est plus à l'échelle de l'organisation spatiale. Et il y a d'autres... aussi, ce qui est important, c'est tout ce qui est usage, où on a donc des habitants sur comment on peut utiliser ces bâtiments et utiliser aussi donc, la végétation. Voilà, donc c'était juste un peu pour lancer le débat sur l'adaptation. Il y a plusieurs manières d'adapter la ville. Il n'y en a pas une. Il faudra sûrement toutes les combiner. Peut-être que la climatisation, dans le futur lointain, on ne pourra peut-être pas s'en passer, mais on pourra peut-être limiter son usage. Donc c'est là un peu... Tout l'enjeu d'utiliser, donc de faire revenir la végétation en ville.
D'accord.
Je ne sais pas si après
merci.
On revient.
Non, je crois que c'est bon. Voilà. Vous avez appuyé plein de fois sur le bouton vert, c'est le lien avec le titre de notre table ronde qui est la ville verte. Et je commence par ça. Chacun d'entre vous, comment vous définiriez la ville verte ?
Comment définir la ville verte ? Beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure qui définissent bien, je dirais à présent, la conception de la ville verte avec tous les outils que l'on possède. Je dirais, pour faire court et reprendre les idées qui ont été émises tout à l'heure, l'idée principale, c'est une ville verte, pour moi, c'est une ville qui est poreuse. Poreuse dans les deux sens, du haut vers le bas, hein, on pense... infiltrations d'eau à la parcelle, etc. On en a parlé suffisamment tout à l'heure. Et poreuse de façon transversale pour ne jamais faire de barrière à toute biodiversité que ce soit. Donc voilà, c'est ce qui fait la légèreté de la ville, c'est effectivement sa porosité dans tous les sens. Alors bon, bien sûr, il existe moult outils. On en a parlé tout à l'heure en termes de gestion d'eau, en termes de végétalisation du moindre mètre carré. Et pour reprendre une idée de la divette qui parlait de la cinquième façade, il y a également, quand on parle de végétaliser le moindre mètre carré, on parle bien sûr des toits, qui sont les quelques surfaces, j'irais, restantes qui peuvent être végétalisées. Donc ça, c'est aussi un outil. Il y en a un autre qui est peut-être dans quelques années qui le sera aussi, c'est les façades végétalisées, qui permettent effectivement avec... De végétaliser des mètres carrés de façon très, très efficiente. Ça reste encore très cher, mais c'est une piste. Et c'est, j'irais entre guillemets, nouvelles technologies, pas tellement pour les toitures végétalisées qui existent déjà depuis un certain temps, mais qui évoluent. C'est des outils qui sont intéressants parce qu'ils permettent de faire le lien, j'irais, entre les différents espaces verts de la ville, qui permettent de faire un lien. Et j'aime bien parler de l'effet pas japonais, en fait, de ces aménagements, qui permettent justement de renforcer cette transversalité et cette porosité de la ville.
D'accord. Voilà. Monsieur Ségur, alors, est-ce que le Grand Lyon est une ville verte ?
Moi, je pense effectivement que le Grand Lyon est en train de devenir une ville verte. Mais pour reprendre la question, moi, j'aurais répondu à la question que vous avez posée précédemment. Une ville verte, c'est une ville vivante et écosystémique, pour reprendre un petit peu le thème de la table ronde d'aujourd'hui. Et on en a parlé aujourd'hui, la question du retour de la nature en ville, c'est une question qui pose effectivement, qui repose sur la reconnaissance des services et des fonctions justement de cette nature qui est indispensable à la ville durable. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que Thierry Laverne l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui avait été perdu de vue et on avait souvent réduit la nature à des simples fonctions esthétiques qui étaient des fonctions finalement relativement secondaires, alors que la nature en ville, elle répond à des fonctions effectivement beaucoup plus importantes en termes de santé, en termes de gestion alternative de l'eau, en termes de climatisation. Il y a toutes ces fonctions qui sont très intéressantes et paradoxalement, qui étaient des fonctions qui avaient été complètement imaginées de manière intuitive, prévues au XIXe siècle. Hein, dans les écrits sur justement la conception des villes modernes au XIXe siècle, on parle énormément d'hygiène, on parle énormément de santé, on parle énormément de tous ces services. Et quand on regarde l'ensemble des services qui sont listés, on parle de choses qui portent sur le social, sur l'environnemental, sur l'économique. Quelque part, ce qu'on appelle aujourd'hui les piliers du développement durable au XIXe siècle, c'était justement l'argumentaire pour faire rentrer la nature dans la ville. Malheureusement, cette vision a été un petit peu perdue, notamment par le morcellement des connaissances au XXe siècle. Et aujourd'hui, on redécouvre cette évidence.
Alors, monsieur Le Sommaire, pour vous, qu'est-ce qu'une ville verte ?
Pour moi, je pense qu'une ville verte, ce sera la ville qui va nous permettre de vivre ensemble et pas l'un à côté de l'autre.
Ça, c'est une ville multicolore, alors ?
Oui, mais justement, donc verte, rouge, donc orange. Et ce sera vraiment la ville qui va nous permettre donc, de mutualiser. Parce que finalement, les efforts qu'on a tous à faire, c'est donc de mutualiser les services, les transports, l'eau, donc l'espace public. Et donc, ce point est important. Et on voit bien que c'est tout un problème de gouvernance, parce qu'en fait, toute la société, donc, depuis 50 ans, nous pousse à la consommation individuelle. Alors que la ville verte doit nous forcer à mettre en commun. Donc, que ce soit donc au niveau du bâtiment que de l'urbain. Donc, moi, donc, j'en parle là avec mon expérience où je conseille des aménageurs et des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, des paysagistes sur comment faire des cahiers des charges. Parce que la question tout à l'heure, c'était faire des cahiers des charges pour anticiper les modes de vie de demain et anticiper le mode climatique pour pouvoir concevoir des espaces urbains sur l'eau, sur les déchets, sur l'énergie, sur les transports, et comment les dessiner, les concevoir, non pas par rapport à des préoccupations, je dirais, économiques, quotidiennes, mais de demain. Et là, je renvoie à finalement l'évaluation donc, financière et le modèle économique. C'est l'anticipation, c'est demain, à 10 ans, à 20 ans, et le coût de la pollution.
Parfait. Monsieur Masson, je ne vous demande pas ce que c'est qu'une ville verte parce que vous avez déjà exposé, mais en revanche, j'ai déjà une question pour vous, parce qu'on me dit si l'îlot de chaleur urbain n'est pas dû au CO2, à quoi est-il dû ?
Donc, il est dû, en fait, à la transpiration des plantes qui vont donc évaporer de l'eau. Donc ça consomme de la chaleur.
Mais il n'y a pas beaucoup de plantes en ville. Si.
Il n'y a pas beaucoup, mais si on en met, on va justement permettre de limiter, parce que là où il n'y a pas de plantes en ville, on va avoir donc typiquement le soleil, il va nous chauffer les murs. Quand on met la main sur un mur en fin d'après-midi, on se sent bien qu'il est chaud. Et donc cette chaleur-là, elle empêche l'air de se refroidir la nuit. Et donc c'est ça qui crée notre îlot de chaleur. D'accord. Et donc si on met de la végétation, la végétation, elle, elle chauffe beaucoup moins parce qu'elle elle transpire de l'eau. Voilà. C'est donc ça, c'est vraiment le rôle primordial d'eau. Et la végétation non arrosée, elle n'aura pas d'effet.
D'accord. Alors, monsieur Lassalle, pour vous, qu'est-ce qu'une ville verte ? Et quelle est la place de ces toitures et de ces façades végétalisées dans la verdification, si j'ose dire, de la ville ?
Merci de recentrer un petit peu votre question, parce que effectivement, moi, je suis un petit peu focalisé, comme l'indique mon intitulé, sur le domaine des toitures et des façades végétalisées, plus précisément des toitures. Donc, je dirais, ma ville verte à moi, c'est une ville végétale ce que je peux apporter en complément, c'est l'idée que les toitures, le patrimoine de toitures existant dans les villes particulièrement, il est même pas important, même pas immense, il est colossal, et que ça correspond à un ensemble de surfaces dont une très large partie sont végétalisables, parce que depuis un certain nombre de décennies, on construit principalement avec des toitures plates ou ce qu'on appelle toitures rampantes, en tout cas à relativement faible pente, et donc hormis la question de structure, qui est une question très importante, potentiellement végétalisable. Donc on a un vivier absolument extraordinaire pour complètement changer l'apparence de la ville au niveau de, au travers du végétal, et d'en tirer tous les bénéfices qui sont désormais relativement bien validés concernant les toitures végétalisées particulièrement.
D'accord. Sur cette affaire qui nous réunit là de cette cinquième façade, vous évoquiez le terme. Je crois que c'est Le Corbusier qui parlait de cinquième façade pour parler des toits. Non, je vous l'avais attribué à un autre.
Je l'ai attribué à l'association Adivette, parce que c'est là que je l'ai lu. Je ne savais pas que Le Corbusier s'était attribué. Vous avez inventé ce terme. Oui. Il en a inventé tant d'autres.
Alors, je disais, est-ce que c'est, comme pour l'agriculture urbaine, quelque chose d'anecdotique, ou est-ce que c'est structurel, quelque chose qui doit se développer, qui va se développer ? Vous allez dire oui, mais...
Je vais répondre. Ça m'intéresse de répondre à cette question. Je pense effectivement que c'est tout à fait... Enfin, alors, dire que c'est structurel aujourd'hui, je ne sais pas, pour donner quelques chiffres, il a été... rendu public le chiffre d'un million, un million et demi de mètres carrés réalisés en végétalisation de toiture en France c'est cette année, enfin en 2012. Ce qui paraît un petit peu important, ça l'est peu, effectivement, au regard du marché annuel de l'étanchéité qui est de l'ordre de 22-25 millions. Ça reste une petite partie, et c'est surtout une toute petite partie par rapport à l'existant, si on remonte sur l'ensemble du patrimoine, un certain nombre de décennies antérieures. Il n'empêche que ça commence à prendre tournure, ça c'est une chose, pour ce qui est de la France. On sait que le marché allemand est de l'ordre de 10 millions de mètres carrés de façon assez stable depuis un certain nombre d'années. Alors, donc, c'est structurant. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, à la fois techniquement et économiquement. On peut aller beaucoup plus loin que ce niveau, somme toute modeste. Et je voulais juste indiquer que lors du congrès mondial que notre association a organisé à Nantes en septembre dernier, on a pu se rendre compte de ce qui se passait à l'échelle internationale. Il n'y a pas un pays, non seulement industrialisé, mais même en développement, qui ne soit désormais lancé, si je peux dire, dans la végétalisation des toitures, des façades complémentairement, mais d'une façon plus marginale. Je suis tout à fait convaincu que c'est quelque chose de structurel et qui ne pourra que se développer. C'est vrai qu'observant ça depuis une vingtaine d'années, je vois vraiment la différence, mais en se projetant beaucoup plus loin, c'est clair qu'il y aura des évolutions en volume et certainement en technique aussi importantes qui auront lieu.
Ça me paraît donc évident, parce que finalement les toitures végétalisées apportent des réponses concrètes à la ville en termes de besoin de développement durable. Aujourd'hui, les écosystèmes, la gestion de l'eau, et le réchauffement, donc l'effet de l'eau de chaleur. Ouais. Et d'ailleurs, nos camarades anglo-saxons qui travaillent sur les certifications environnementales, que ce soit BREEAM, LEED ou DGNB, valorisent largement la végétalisation des toitures. Et donc, avec des apports concrets, en France, on n'y est pas encore, sur la partie biodiversité. Et là, ils le font, nous, on le fait un peu sur l'eau, bien sûr, et les apports. Donc, je pense que ce marché sera largement en ville, amené à se développer.
Il y a un sujet, c'est sur, on l'a vu tout à l'heure avec l'eau, ça peut amener des problèmes. Quels problèmes peuvent amener la végétalisation, soit en termes sanitaires même, ou même en termes de pollution ? Dans le Grand Lyon, vous n'avez pas réfléchi à ça ?
Alors, c'est vrai que quand on parle entre santé et nature, ce qui vient souvent en tête, c'est la question des pollens. La question des pollens, c'est un sujet intéressant parce que effectivement, c'est ne pas voir effectivement où est le problème. Si on regarde un petit peu les essences allergènes, on s'aperçoit qu'il y a le chêne, le pin, le bouleau, le peuplier, le tilleul, et j'en passe. 80% de la forêt française est allergène. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, depuis les années 50, il y a une telle augmentation des allergies respiratoires qu'il n'y avait pas auparavant. Et aujourd'hui, le lien est fait avec la vraie responsabilité qui est la pollution atmosphérique. Et qui effectivement est à l'origine de la sensibilisation des populations qui deviennent de plus en plus sensibles à toute forme d'allergènes, que ce soit des pollens, des poussières et des particules. Donc effectivement, cette question effectivement de la santé en lien avec les plantes, elle pose effectivement, elle impose d'avoir un regard un peu distancié sur la problématique. Et à l'inverse, on s'aperçoit que l'impact positif de la végétation sur les plantes, qui était encore une fois, pour reprendre le parallèle avec le 19e siècle, une intuition du 19e siècle. Il suffit de regarder tous les hôpitaux construits au 19e siècle, ils étaient construits dans des grands parcs, parce qu'il y avait cette intuition qu'il y avait une relation entre la nature et la santé. Et aujourd'hui, depuis maintenant une vingtaine d'années, on a énormément d'études scientifiques qui montrent que cette intuition se vérifie et que la nature a des fonctions et des rôles très importants en termes de santé. Les impacts santé, ils sont vraiment importants. On parlait tout à l'heure du changement climatique. Il faut rappeler la canicule de 2003, qui devrait être une canicule normale dans 50 ans en France. Il faut savoir qu'il y a une évaluation qui porte à peu près à 15 000 morts la mortalité liée à cette canicule. Donc les impacts sanitaires sont très importants. Et aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que l'impact de la végétation par rapport au rafraîchissement de la ville, l'impact de la végétation sur la filtration des particules fines émises par la pollution des voitures, tout ça, ce sont des véritables réponses justement pour limiter les problèmes d'allergie, les problèmes de cancer, les problèmes de maladies cardiovasculaires. Et dans le bilan, tout à l'heure on parlait du bilan économique entre l'investissement et le retour, le bilan santé de la nature en ville, il est largement positif. Et ce qu'il faut attribuer, je dirais, en termes de bénéfices, santé, est beaucoup plus important que ce qu'il faut impacter en termes de risque.
Il y a le sujet de la santé, il y a le sujet du patrimoine ici. Par exemple, à côté d'ici, il y a le château de Versailles. Est-ce qu'on peut le recouvrir de végétation ?
Ce serait une complète aberration. On est quand même bien d'accord. La végétalisation de toiture ne concerne que, évidemment, les bâtiments, enfin, à 90%, je dirais, les bâtiments à toiture plate. Là-dessus, il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner. On a eu quand même, par les 10 dernières années, tendance à s'affranchir, de l'obligation de permis de construire en faisant, un petit peu tout et n'importe quoi en termes de végétalisation de toiture. Je vous parlerai à ce moment-là des toitures qui se sont faites il y a quelques années avec quelques centimètres de substrat et une espèce, enfin une plantation, je dirais monospécifique de crassulacées, enfin de sédum, qui en termes de, je dirais, de biodiversité, de confort thermique, etc., sont très très discutables. On commence, j'irai à présent, à s'intéresser, j'irai de plus en plus à des solutions avec comportant des substrats un petit peu plus intelligents, un petit peu plus conséquents en termes d'épaisseur. Il faut quand même savoir que tous les bienfaits, j'irai, d'une toiture végétalisée en termes de confort, en termes de biodiversité, de gestion de l'eau, sont complètement proportionnels, je dirais, à l'épaisseur et à la qualité du substrat. Donc, je dirais, partant de là, il faut après pouvoir gérer ça, je dirais, avec l'économie du projet. On reste quand même sur des coûts, je dirais, des surcoûts en termes de construction. Même si les substrats sont légers, il faut quand même compter, je dirais, pour parler chiffres, environ 60 euros, j'irais, du mètre carré pour une toiture dite semi-intensive et, j'irais, correctement ou intelligemment jardinée, j'irais, entre guillemets. 60 euros du mètre carré, c'est quand même pas banal. Une façade végétalisée.
Ça, c'est pour la production.
Oui, à la construction. Après, il faut l'entretenir. Alors, l'entretien, pareil, on ne peut pas dire que les toitures végétalisées ne sont sans entretien. À partir du moment où on annonce ça, on...
Oui. Il faut voir où sont les enjeux aussi. Oui. Parce que, quelque part, ça ne dérange pas donc, les architectes, les maîtres d'ouvrage, d'investir 800 à 1000 euros au mètre carré par façade, pour une façade. Donc, ça représente quoi, 60 euros?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir où on veut mettre l'argent. C'est très relatif. Quand je parle de 60 euros du mètre carré, comparé aux bienfaits que peuvent procurer effectivement les toitures végétalisées en termes de confort, ne serait-ce que de confort thermique, pas forcément en termes de chauffage, mais particulièrement en termes de climatisation, de rafraîchissement de la ville. Bon, ça, ce sont des choses en termes de santé, ce sont des choses qui sont difficilement quantifiables, mais c'est vrai que ces 60 euros du mètre carré, à mon avis, sont un investissement minime par rapport aux bienfaits que la végétalisation de ces toitures peut être.
Alors, monsieur Lassalle, on me pose une question. Si je dis de Lassalle, c'est grotesque comme jeu de mots, mais bon, voilà, ça me vient par SMS. On me demande quelle est la part du privé dans la demande, dans les marchés en matière de développement de façades ou de toitures végétalisées. D'une autre façon, je pense que la question, c'est est-ce que ce n'est pas simplement une lubie de maître d'ouvrage public que de développer ça? Est-ce que vous avez des demandes dans le secteur privé qui se développent?
Oui, je vais vous rassurer. Enfin,
rassurer notre interlocuteur.
Vous rassurez les participants. La demande publique a toujours été et reste importante et dominante, mais la demande privée en matière de toiture végétalisée a toujours existé, que ce soit au niveau de logements ou au niveau, par exemple, de centres commerciaux. Ça ne date pas d'hier qu'on végétalise des centres commerciaux, donc qui sont par nature privés. Et je pense qu'effectivement, ça évolue largement plutôt dans ce sens-là, dans le sens d'un développement de la demande de la maîtrise d'ouvrage privée. Si vous me donnez deux minutes pour faire un tout petit tableau de la situation au plan technique, on parle de toiture végétalisée dans l'ensemble, et il y a effectivement différents types de végétalisation de toiture. On connaît bien, enfin, tout le monde connaît de près ou de loin ce qu'on appelait autrefois la terrasse-jardin. Donc terrasse-jardin, 50 cm de terre végétale ou 1 mètre de terre végétale si on veut planter un arbre dedans. Ça a existé, ça continue à exister. C'est même un marché qui continue, qui est très stable, mais qui représente lui aussi plus ou moins 1 million de mètres carrés annuels. On n'en parle pas, mais... c'est tout à fait significatif. Cette solution traditionnelle, disons, de végétalisation de toiture continue à avoir tout son intérêt, y compris au regard de la biodiversité au sens très large du terme, puisque quand on va sur des strates arbustives, on enrichit à coup sûr également l'aspect faunistique de la biodiversité. Mais par contre, on se heurte, entre guillemets, d'emblée à des notions de coût qui sont encore beaucoup plus importantes que celles qui étaient citées juste avant, des notions d'entretien et surtout une notion de conception préalable, puisqu'on parle de solutions qui vont peser entre, on va dire, 600 kg et 1 à 2 tonnes au mètre carré. Donc il y a forcément une conception préalable et des coûts de structure. Or, ce qui s'est passé dans les 20 dernières années en France avec le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les toitures végétalisées, ce sont les solutions de végétalisation dites légères, qui comprennent les végétalisations extensives et semi-intensives qui ont été évoquées juste avant. Sans être trop empoisonnant avec ces détails techniques, très schématiquement, végétalisation extensive égale épaisseur de matériaux, de complexes de culture relativement faibles, entretien limité au sens qu'on va surtout laisser un écosystème s'installer et la nature largement faire son œuvre, si je peux dire. On a une limitation notamment de la végétation dite adventice, d'une végétation trop luxuriante par le simple fait d'une épaisseur de matériaux restreinte. Et la dernière solution, c'est celle qu'on appelle semi-intensive, qui utilise des épaisseurs de matériaux sensiblement plus importantes, mais très généralement une irrigation et des besoins d'entretien plus élevés. Tout ça pour dire qu'il y a différentes catégories de végétalisation de toiture qui existent et qu'elles ont des domaines d'application différents. Et ce qui a fait que dans les années récentes, les solutions minimales se sont développées à base de tapis de sédum particulièrement, c'est tout simplement que cette solution représentait la conjonction d'un maximum d'avantages apparents pour le concepteur, à savoir c'est léger, ça coûte pas trop cher, ça requiert le moins d'entretien possible. Et je pars là-dessus, si on peut dire, en mettant dans l'état d'esprit d'un architecte. Ce n'est pas du tout illogique. Ça aurait été surtout une très bonne logique si on avait appliqué ça aux toitures existantes, aux toitures au patrimoine, en support béton existant. On a vraiment une très belle adaptation là qui permet de passer du minéral au végétal, entre le gravier et même une colonisation à partir de sédum qui peut être tout à fait enrichie aussi avec un certain nombre de plantes vivaces. Par contre, cette solution a également été utilisée d'une manière à son échelle massive par les architectes, également en création neuve. Autrement dit, on est resté très minimaliste dans le domaine de la construction neuve à vocation d'être végétalisée. On a dit je vais travailler avec le moins de coûts possible, le moins de poids, etc. Et c'est ce qui nous a amené au fil du temps à donner une image réellement pas très diverse, pas très riche de la toiture végétalisée au travers de ces solutions minimales. Les solutions qui utilisent des épaisseurs sensiblement plus importantes et donc une diversité végétale beaucoup plus riche et également sur le plan esthétique, elles existent également depuis 20 ans, elles n'ont simplement pas été mises en œuvre ou très peu jusqu'ici.
D'accord. Là, on a évoqué.
Excusez-moi de cette petite longueur, mais
chacun a droit à ses deux minutes de succès. Non, le point important, c'est qu'on a évoqué beaucoup la cinquième façade, mais pas les quatre autres. Là. C'est-à-dire qu'on parle des toitures, mais peu de la façade. Combien ça coûte au mètre carré que d'avoir une façade végétalisée ? Quelles sont les formes de végétation qu'on peut implanter ? Quels sont les coûts ? Je dis, mais quels sont les financements aussi ? C'est pas mal de questions qui me remontent là.
Vous voulez qu'on parle des coûts tout de suite ? Vous parliez tout à l'heure que les architectes n'hésitaient pas à mettre 800 euros du mètre carré dans une façade. C'est, je dirais, pile poil le coût d'une façade végétalisée. Hein. Façade végétalisée suivant leur concept, parce qu'il en existe plusieurs. Le prix s'échelonne, je dirais, de 550 à 1000 euros du mètre carré, suivant la typologie du concept et suivant la surface, bien entendu. Là-dessus, il faut quand même mettre un petit bémol. Il y a un entretien aussi. Vous pouvez difficilement avoir de façades végétalisées sans entretien. Suivant les régions, le coût au mètre carré annuel peut varier entre 20 et 40 euros du mètre carré, par an, en fonction de la surface, bien entendu. Entre 20 et 40 euros, ce qui est quand même pas marginal, mais qui, en termes de bien-être et bienfait pour la ville, est somme toute un coût relativement faible.
Je voulais juste rappeler que la vigne vierge, ça existe aussi. C'est beaucoup plus économique en investissement, en entretien. Et parce que les questions économiques sont importantes. Effectivement, si on veut verdir la ville, la demande sociale, c'est davantage de nature en ville, mais c'est aussi moins d'impôts. Donc, effectivement, la quadrature du cercle, c'est comment on fait plus avec moins. Et ça, ça impose effectivement de changer leur raisonnement sur la conception et la relation entre la conception et la gestion. Pendant très longtemps, l'horticulture, elle a suivi le même chemin que l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale, qui était le chemin de l'artificialisation. Il fallait apporter de l'eau, il fallait apporter des fertilisants, il fallait traiter parce qu'il y avait des maladies. Et tout ça, effectivement, c'était une conception de la nature en ville, qui était une conception qui demandait énormément d'intervention pour corriger effectivement un déséquilibre du départ. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la conception justement d'une ville nature durable, la question effectivement du fonctionnement écosystémique de la nature en ville, c'est-à-dire comment on retrouve des équilibres naturels qui permettent à la nature de se débrouiller toute seule, parce que quand vous allez dans un milieu naturel, il n'y a personne qui l'entretient. L'entretien coûte zéro, même la régénération est naturelle et gratuite. Donc effectivement, la conception des espaces verts aujourd'hui s'inspire beaucoup effectivement des modèles naturels, justement, par rapport à ce fonctionnement qui est économique et durable.
Il y a une petite question qui m'a été envoyée pour vous, qui est une petite question vacharde. C'est comment vous expliquez le très faible niveau de végétalisation de confluence ?
Alors, est-ce qu'il faudrait expliquer que le quartier du confluence, c'est un quartier du sud de la presqu'île de Lyon qui est en cours de régénération ? Me semble pas. Donc, c'est un quartier qui n'est pas fini. Puisque aujourd'hui il y a à peu près un tiers de la surface du projet qui est réalisé, donc on ne peut pas effectivement juger pour l'instant effectivement de la fin. Sur ce tiers, effectivement, il y a quand même une proportion d'espace vert, d'ailleurs gagné sur la place de la voiture, qui est relativement importante. Dans les espaces gagnés, il y a aussi des espaces d'eau. Ça, c'est aussi important par rapport à l'adaptation de la ville au changement climatique. Et moi, je vous invite à venir à Lyon pour visiter ce quartier qui ne me semble pas dénué de végétation. Et après, effectivement, la difficulté, c'est que quand on compare effectivement une ville qui a 100 ans avec des arbres qui ont une envergure de 30 mètres ou de 20 mètres, avec des arbres qui viennent d'être plantés, effectivement, on n'a pas le même aspect en termes de volume du paysage. Donc effectivement, il faut introduire cette question de dynamique du paysage dans l'évaluation du projet paysager. Mais effectivement, le confluent, une des idées effectivement de ce quartier, c'est d'assurer une densité urbaine forte, tout en augmentant le ratio effectivement d'espaces verts et d'espaces publics, je dirais, dépourvus de voitures. Et en ce sens, on peut dire effectivement qu'il y a à la fois de la densité et une part d'espaces verts qui n'est pas négligeable.
Monsieur Le Sommer, quelles sont les réalisations en France ou les projets en France et à l'étranger qui vous semblent exemplaires ?
En termes de ville verte, de ville verte,
d'intégration de la végétation, de l'eau.
Un des premiers, c'était donc Lyon Confluence, ouais. Parce qu'en fin de compte, vous avez commencé donc 95 à faire des cahiers des charges, 2000, oui. Donc des quartiers comme Grenoble, donc à Aubonne, où il y a une réflexion globale finalement donc des usages. Avec donc des indicateurs, donc et j'insiste sur les indicateurs, et c'est pour ça que le vivant de la ville donc a décidé de travailler sur ces indicateurs, parce que finalement c'est ceux qui permettent de prescrire Donc, des moyens donc, de partager la ville en termes d'énergie, d'eau, de végétalisation. Aujourd'hui, les deux, pour moi, les deux quartiers les plus avancés, donc, ce serait donc, ces donc, quartiers. Après, il y a les bâtiments, donc un bâtiment qui n'est pas trop loin, donc ici, qui un bâtiment bureau qui s'appelle Green Office, hein, fait par Bouygues Immobilier. Je le cite parce que je pense que c'est un des bâtiments les plus donc performants. Et puis après, il y a aussi, surtout, donc depuis une quinzaine d'années, une multitude donc de projets de maisons donc individuelles, voyez, où il y a eu finalement donc, un gros travail personnel et individuel, même si je défends pas du tout la maison individuelle, quand on parle de densité de la ville, mais en termes donc d'exemplarité et donc de technique, donc je dirais bioclimatique et de développement durable. Et puis autre grand donc bâtiment, donc il y a pas mal donc les régions tous depuis maintenant une quinzaine d'années travaillé sur des lycées, donc avec de la végétalisation, de la gestion de l'eau à la parcelle. Des bâtiments donc BPOS, hein, qu'on voit donc maintenant donc finalement en cours de livraison. Je pense que la France est en train de rattraper le retard qu'elle avait par rapport aux pays nordiques. Donc encore il y a une dizaine en train. Ouais, j'y vais doucement.
Il y a encore beaucoup de travail. Hein.
Oui, encore. Elle est en train de rattraper, je le pense. Il y a encore 5 ou 10 ans, je faisais comme donc les personnes tout à l'heure qui disaient qu'elle allait voir donc ce qui se passait donc à l'étranger. Pour pouvoir finalement réintégrer ces techniques et cette gouvernance surtout, hein, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, moi, je me bats pas sur de la technique pour intégrer donc des prescriptions environnementales dans la ville et dans le bâtiment. Je me bats sur les usages. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, comment mettre un pull quand il fait froid,
ouais. Et comment mettre un pull?
Bah oui. Aujourd'hui, donc regardez, nous tous, il faut faire une petite leçon. Hein. Aujourd'hui, le principe. Hein, on doit mettre une chemise et une cravate. Alors qu'aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe? On doit chauffer à 23 degrés. Dans les bâtiments, les bureaux, les locaux, on chauffe à 23 degrés. Alors qu'on pourrait tous mettre un pull et chauffer à 19 degrés, on économiserait tout simplement 40 degrés. 40% donc d'économie d'énergie. C'est tout simple. Ça, c'est de la gouvernance.
C'est de la gouvernance et de l'idée simple, mais qui peut, si elle est large, avoir des
impacts.
C'est
la stratégie d'adaptation la plus efficace.
D'ailleurs, vous portez un pull, monsieur Masson.
Je porte un pull.
Mais vous, alors, mais la stratégie qu'on doit tous avoir par rapport à la ville, par rapport au bâtiment et la gouvernance, c'est finalement de la technologie passive. Mais quand on essaie donc d'éviter de la climatisation, c'est
tout. Parler dans le micro. Parler dans le micro.
Oui. Ouais. C'est donc d'avoir donc une stratégie, j'appelle passive. Mais ouais. Revenir donc aux bases et à l'essentiel.
Ouais. Monsieur Masson, vous alors, en matière de ville verte, d'adaptation au changement climatique, quelles sont les réalisations qui vous semblent exemplaires?
Alors, j'en ai une, un bon exemple. Donc, c'est une réalisation, ce n'est pas de la toiture végétalisée, c'est plus la création d'un parc de la végétation de pleine terre. Parce que bon, je voudrais souligner que c'est quand même un peu plus efficace pour rafraîchir la ville, la végétation de pleine terre, que les toits végétalisés, surtout les extensifs qui n'ont effectivement pas beaucoup de substrat. Donc, c'est un exemple qui n'est pas en France, ça vient de Corée. Donc, c'est Séoul. Donc, il y a un cours d'eau qui traverse Séoul. Et dans les années 60, c'est l'arrivée de la voiture, et donc ils ont recouvert le cours d'eau avec une autoroute à 2 étages, voilà. Avec des bâtiments qui font face à l'autoroute. Voilà. Donc là, c'est l'exemple vraiment de l'urbanisation dont on ne rêve pas plus tout à fait maintenant. Et ils ont pris la décision de réouvrir le cours d'eau. Et donc en 2003, ils ont commencé les travaux, ils ont détruit l'autoroute. En 2006, le cours d'eau était rétabli avec tout le parc le long. Donc, en 3 ans, ils ont réussi à faire marche arrière et à réouvrir complètement le cours d'eau. Et donc ça, c'est quand même un exemple assez frappant sur l'ensemble du centre-ville de Séoul, tout ce cours d'eau qui a été rouvert, avec aussi un impact d'un point de vue météorologique, climatique, d'un rafraîchissement dans la zone et dans les immeubles juste avoisinant ces cours d'eau.
Et ça, c'est quelque chose qui peut s'étendre, se repliquer, ou c'est anecdotique ou pour les touristes en Corée, à Séoul?
Le but, c'était pas de le faire pour les touristes, c'était de le faire pour les habitants et pour la ville.
D'accord.
Donc c'est après quelque chose qui est techniquement faisable. Après, à savoir, est-ce que c'est politiquement faisable de faire une action d'envergure comme ça et économiquement faisable en France, je ne sais pas, mais je n'avais pas connaissance d'action de cette envergure-là dans des villes françaises.
Non, parce qu'on me posait la question pour une autre table ronde, comment peut-on remettre à ciel ouvert des rivières maintenant canalisées? C'est donc l'exemple que vous signalez là. Mais quels sont les leviers pour le faire?
Là, c'est franchement, clairement, à Séoul, une question de moyens. Hein. Bon, tout à l'heure, j'entendais parler, parce qu'on prend, on a effectivement pris du retard par rapport à nos voisins, notamment à nos voisins allemands, hollandais, suisses. J'entendais parler tout à l'heure du millefeuille administratif. Bon, c'est possible que cela retarde, que ceci explique cela, mais il y a également quelque chose qui est beaucoup, peut-être beaucoup plus important que ce millefeuille administratif, c'est une question de culture. Et je pense que, très sincèrement, si on veut arriver un jour à rattraper ce retard, c'est changer les mentalités et créer également des porosités entre les écoles. Il y a une étanchéité parfaite entre les écoles d'architecture. Alors bon, elle se fissure peut-être un petit peu maintenant, mais enfin c'est très très récent, mais une étanchéité parfaite entre les écoles d'architecture, les écoles de paysage et les urbanistes. Chacun travaille dans son coin. Là-dessus, on rajoute le millefeuille administratif, on rajoute les impératifs politiques et vous avez une triple punition franco-française. Donc c'est vraiment en modifiant cette transversalité peut-être au sein des écoles qu'on arrivera à modifier les cultures et à terme effectivement à prendre conscience et aller beaucoup plus vite pour répondre justement aux enjeux que nous pose aux enjeux, aux risques de qui sont liés au changement climatique. Et puis l'extension des villes. Je suis peut-être moins inquiet pour les grandes villes où il y a beaucoup de sachants, il y a des services, il y a un service architecture, un service d'urbanisme, etc. Par contre, pour les villes moyennes et les petites villes, on est encore très clairement sur des modèles qui datent des années 70. J'ai la chance d'habiter un petit village au début de la route des vins en Alsace, mais c'est complètement atterrant de voir qu'on construit encore des lotissements qui sont faits complètement sur le modèle des années 70 avec des kilomètres de voirie pour desservir des maisons champignons plantées au milieu de 600 ou 1000 mètres carrés de terrain. Donc ça, c'est quand même aussi assez inquiétant, et ça, c'est bien une question de culture plus qu'une volonté politique.
Alors, on me signale sur cet exemple qu'il sera développé ou abordé cet après-midi dans la conférence de Paul Lecroix de l'IAURIF. On me signale aussi qu'une telle disposition a été prise et réalisée, et même inaugurée à Madrid l'an dernier. Et enfin, il y a le sujet de la Bièvre à Paris, c'est vrai, qui refait le jour, voilà, ou en tout cas, qui est à l'ordre du jour avant de refaire complètement le jour. Je voudrais terminer cette table ronde, si vous êtes d'accord, par une question très simple et à la fois personnelle, c'est: est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité des villes en France, par l'intermédiaire de ces innovations, à s'adapter au changement climatique? Commencez par vous, monsieur Masson. Généralement, quand on pose la question à un chercheur, il va dire: ah ben non, moi je suis juste là pour observer, etc. Mais alors...
Il faut que je réponde quoi? Non.
Oui, comme vous voulez.
Donc oui, je suis optimiste, principalement parce qu'il y a énormément de leviers disponibles. Donc il n'y aura pas une solution qui sera valable pour toutes les villes, ou il n'y aura même pas une solution qui sera valable pour les villes du nord de la France ou une solution pour les villes du sud de la France. Mais il y a beaucoup de leviers d'un point de vue sur les techniques constructives, sur la végétation en ville, la végétation de pleine terre. Une façon très simple d'améliorer le confort des habitants en ville, c'est de planter un arbre au feu rouge. Parce que c'est là que les gens attendent le plus longtemps.
Un arbre au feu rouge.
Un arbre au feu rouge. C'est-à-dire quand les gens doivent attendre pour traverser la rue, au moins ils sont à l'ombre. Voilà. Donc il y a des techniques très simples qui ne coûtent pas vraiment très cher, qui permettent d'améliorer déjà au quotidien le confort des gens. Et il y a des aspects aussi. Donc après, il va y avoir sûrement des actions sur la gestion d'eau, parce que effectivement, pour avoir un effet rafraîchissant de la végétation, il faudra peut-être mettre en place des techniques nouvelles de gestion de l'eau au bâtiment, à la parcelle, etc. Mais voilà, c'est surtout, il y a aussi, donc, ce dont on parlait tout à l'heure, les usages des habitants sur les températures de consigne, de chauffage et de climatisation. Il y a beaucoup de leviers pour s'adapter, et donc il y aura forcément des combinaisons qui permettront d'avancer.
D'accord. Parfait. Monsieur Lassalle.
Je pose
la question plus précisément pour vous. C'est est-ce que la filière que vous représentez ou que vous voulez développer est une filière qui va pouvoir solidement s'implanter ?
Ah oui, j'en suis totalement convaincu. Je pense que c'est nécessaire. Effectivement, je suis le porte-parole d'une filière, donc d'acteurs économiques, mais indépendamment de ça, je porte en moi aussi l'idée que c'est tout simplement la chose à faire sur les toitures, pas la seule d'ailleurs, parce qu'il y a quand même d'autres utilisations intéressantes des toitures à avoir. On a parlé d'agriculture urbaine en début de matinée, c'est aussi une possibilité. Il y a d'autres usages possibles des toitures, mais je pense surtout qu'on est arrivé, j'aurais tendance à dire enfin, parce que pour ce qui me concerne, ça fait un chemin de plus de 20 ans, on est arrivé à un point de conviction possible, potentiel et relativement existant maintenant, de conviction des autorités, des collectivités territoriales, notamment pour valider et impulser le développement des toitures végétalisées. On va rester effectivement très succinct sur les façades parce que voilà, c'est une autre problématique. La contribution n'est pas du même ordre et surtout le rapport des usages, des apports induits par rapport au coût, un petit peu difficile à appréhender.
Monsieur Ségur.
Moi, je suis optimiste, mais je me dis, quand on étudie les changements climatiques, ce qui étonne, effectivement, c'est la rapidité et donc, quelque part, l'urgence du changement. Même si les mentalités évoluent, on s'aperçoit, effectivement, que le changement va lentement. Une ville, ça évolue lentement. On travaille sur 1% du territoire par an. Donc, si on veut changer tout le territoire, il faut 100 ans. Donc, quelque part, on manque un petit peu d'action forte et volontaire. Et on parlait d'exemplarité. J'étais à Montréal il n'y a pas très longtemps. Montréal vient d'adopter, il y a un an, un plan canopé pour adapter la ville au changement climatique, qui propose d'augmenter de 5% le couvert arboré de la ville. Pour cela, il faut planter 300 000 arbres en 10 ans. La collectivité se prendra en charge 50% et a mis effectivement les sommes en face. Et le reste est planté par des initiatives privées, parce qu'effectivement, il y a un effort partagé de ce changement de la ville. Là, on est vraiment dans une réalité pragmatique qu'on n'a pas encore complètement en France, où on reste quand même sur la logique de projet. C'est-à-dire que le projet en France peut adopter justement des éléments innovants par rapport à l'adaptation au changement climatique, mais on ne voit pas encore de véritable politique à l'échelle d'un grand territoire urbain pour véritablement engager rapidement et sur du temps court les changements nécessaires pour l'adaptation à cette urgence climatique.
Bien. Monsieur Muller.
Moi, je suis d'un naturel optimiste, comme tout entrepreneur, mais enfin, malgré tout, quand même très, très inquiet. Je trouve que les démarches et les projets avancent, je dirais, moins vite que les effets de la pollution, que les effets du réchauffement climatique. Donc, oui, je ne sais pas si on peut être fanfaronné, j'irais, à ce sujet. Je trouve qu'on est, on n'est pas forcément très, très, très brillant et très, très efficace tout le temps. Je reviens sur la notion de culture. C'est pas forcément peut-être ancré dans notre culture. On parlait d'exemples en Europe de villes qui fonctionnent pas trop mal. Il y a un exemple, même s'il est un petit peu caricatural ou typé Arche de Noé, mais il y a Fribourg qui est quand même un très bel exemple de ville verte qui fonctionne bien avec un très bel équilibre. Tant au niveau, je dirais, social qu'écologique. Mais c'est plus lié à la culture des gens qui habitent la ville qu'à une volonté politique de départ. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet et que j'insistais sur le fait d'ouvrir et de casser les barrières qui existent entre les différentes écoles, architecture, paysage, urbanisme. C'est pour justement mettre un petit peu un coup d'accélérateur au niveau de la culture et d'avoir un petit espoir sur l'engagement collectif, parce que c'est pas seulement avec de belles techniques, de belles volontés et des des quelques coups de gueule politiques qu'on va arriver à résoudre le problème.
Monsieur le sommaire.
Je ne finirai pas de façon positive. Moi, je reste très inquiet, parce que, comme vous, je pense que les mentalités ont du mal à évoluer aussi rapidement que les problématiques, donc certes, du réchauffement climatique, mais de ressources. Parce que je rappelle à tout le monde qu'en France, c'est quand même 10% des foyers qui sont en précarité énergétique aujourd'hui, et que ce qui s'annonce donc, dans les 20 prochaines années, ce n'est pas une réduction du coût de l'énergie. Pas de réduction, d'une part, et on va voir donc une vitesse, donc la France, et l'Europe, à deux vitesses. Effectivement, les grandes villes ont des moyens de l'ingénierie et un marché finalement qui permette finalement donc de rénover et d'investir dans le développement durable. Mais l'exemple donc de petites villes, de petites communes, d'agglomérations. Qui n'ont moins, parce qu'à côté des grands axes donc, de développement européen, auront moins de moyens. Et aujourd'hui, on voit concrètement, j'appelle moi donc, des épaves développement durable, pour ne pas parler de thermique, c'est-à-dire qu'en dehors des grands enjeux du développement durable, que ce soit l'eau, la végétalisation, l'énergie, la gestion des déchets, qui n'ont pas les moyens donc, de rattraper donc, le retard pour s'adapter aux futurs changements. Donc c'est à nous tous de sensibiliser et d'agir très vite. D'où l'importance, j'insiste pour Xavier, et nous tous qui sommes là, donc de vivant la ville, pour agir maintenant, donc pour donner les moyens de ce changement, de sensibiliser donc les Français et Européens.
Merci pour ce dernier mot. Il y a eu plusieurs SMS très insistants sur la place des habitants, la place de chacun d'entre nous, et je crois que vous venez de signaler combien c'était absolument crucial, parce que je n'ai pas eu l'occasion de poser la question, je place ça là.
Il faut sensibiliser.
Sensibiliser, et puis c'est à ce niveau-là, au niveau de chacun des usages individuels, que les transformations se feront. Je vous remercie également pour la conclusion à plusieurs notes, positives ou moins optimistes sur l'avenir, parce que sur la ville verte, on peut avoir une vision enchantée, je crois, et dire « formidable, on est tous bons, se tenant la main, on va y arriver ». Il y a également quand même un peu plus de sombre ou de mitigé comme couleur sur l'avenir.
Juste pour finir, donc, l'exemple des écoquartiers européens, aujourd'hui, on voit qu'ils finissent tous en quartier bobo. Effectivement, c'est un quartier qui est plaisant, le confort est intéressant, moins consommation d'énergie. Et bien, on voit bien Malmö, donc Fribourg, c'est un quartier, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais ça devient des quartiers donc bobos, donc chic et urbain, donc pas social.
En tout cas, pas répandu partout.
Ouais. C'est pas tout à fait vrai pour Fribourg, dans le deuxième quartier,
où
il y a une mixité sociale qui est intéressante, une mixité d'usage qui est intéressante aussi.
Totalement.
Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai pour. Mais bon, c'est vrai que ça a commencé par des quartiers bobos, mais bon, si c'est déjà pas mal si ça peut faire école et se généraliser. Mais alors, puisqu'on évoque Fribourg, quand vous passez de l'autre côté du Rhin et que vous parlez d'écoquartier, ils ne savent pas ce que ça veut dire, les Allemands. Hein. Ils ont pratiquement pas de terme pour ça. Il n'y a que chez nous qu'on met des noms sur ces choses-là. Un écoquartier, pour un Allemand, ça ne veut rien dire. C'est plus inscrit dans leur culture et dans leur gène que chez nous.
Probablement encore moins en Afrique, qui a été cité dans 2-3 mails, qui est l'avenir de l'urbanisation. Oui. Je vois que la conclusion de cette table ronde s'éternise, mais
et j'insiste, que c'est comme l'actualité de la semaine. On voit bien ce qui se passe lorsqu'on essaie de faire changer les habitudes. Quand on parle de taxe carbone, regardez donc les habitants qui n'arrivent pas à comprendre donc l'intérêt et qui sont donc coincés.
Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous allez vous faire plein de copains à dire qu'il faut augmenter les taxes.
Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est toute la problématique de la gouvernance. Et donc, aujourd'hui, il faut changer les habitudes. Et quand on met en place des lois qui ne sont pas bien expliquées, et quel est donc l'intérêt, ça ne passe pas. Et ça, c'est bien une problématique sociale.
Absolument. Alors, avant la conclusion du président Xavier Laureau, on m'a demandé de vous infliger une synthèse de ce qu'on s'est raconté. Alors, je vais le faire de manière très simple, en prenant un mot anglais, qui est hope, pour espoir, et ça fait un acronyme pour, je pense, 4 grands termes qui ont traversé nos échanges. Alors, hope, c'est H-O-P-E. Le premier terme qui vient de la lettre H, c'est hybride. Vous avez vu comme on a pu y insister explicitement dans la première table ronde et finalement à peu près tout le temps entre le social et l'économique qui se croisent, le public et le privé qui se regardent plus autant en chien de faïence qu'auparavant, l'agro-urbanisme qui vient rencontrer l'urbiculture, alors au-delà des termes et de la sémantique, je pense que oui, la ville est appelée à devenir plus hybride. La deuxième lettre de l'acronyme HOPE, c'est pour organiser. Je pense que tout le monde en conviendra, la gestion en silo, sans qu'elle soit profondément déplorable, est déplorée. Ce n'est pas quelque chose d'aisé que de la dépasser, mais c'est vrai que dans la réalisation des projets, passer par des appels d'offres qui ne soient pas systématiquement centrés sur un des silos, c'est peut-être une des voies de dépasser quelques difficultés de gouvernance. Le P de HOPE m'est venu par poreux. C'est quand même marrant, puisqu'on a parlé beaucoup d'imperméabilité et de ces difficultés. Et on a aussi évoqué ce terme plusieurs fois. Il faut que la ville soit plus poreuse. Par là, j'entends, c'est plus ouverte, sans que ce soit une vision enchantée de dire « vive la mixité sociale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». C'est naturellement plus ouverte à la nature, plus ouverte au vivant, plus ouverte à son environnement. Et la quatrième lettre de HOPE, pour moi, c'est le verbe de « économe ». Alors, « économe », c'est sympathique au sens de frugal, bien sûr, dans nos consommations, plus par pull que par chaleur très importante de nos logements. Mais en même temps, par « économe », c'est dans un environnement où les moyens sont limités, la question économique que j'ai cherché à aborder dans chacune des tables rondes est absolument capitale et cruciale. Donc voici les quatre mots moi, qui me sont venus pour tenter de synthétiser à ma manière ce qui s'est dit. C'est peut-être des trahisons absolument scandaleuses à l'égard de ce qui s'est dit, surtout des trahisons scandaleuses à l'égard de la centaine de SMS que j'ai reçus. Je n'ai pas pu tous les reprendre, donc j'en suis désolé, mais ça prouve que c'est un petit système qui est rigolo. Mais la conclusion revient à Xavier Laureau, et avant qu'il nous rejoigne, ou même pendant qu'il nous rejoint pour faire sa petite conclusion de la matinée, on propose quand même de chaleureusement applaudir nos 5 intervenants. On peut rester, non. Il va dire, ce ne seront que quelques mots.
Voilà, donc très rapidement, avant de passer et de se retrouver en bas dans la salle qui est juste en dessous pour un cocktail déjeunatoire, je voulais très sincèrement, au nom de tous les membres de notre association, remercier les intervenants de ce matin qui ont bravé les grèves de RER et qui nous ont rejoints. Merci pour les idées concrètes et les échanges francs que nous avons eus et qui sont simplement des idées concrètes que notre association veut aussi promouvoir. Nous souhaitions que cette journée vous apporte, elle n'est pas terminée, il y aura des apports concrets cet après-midi aussi, vous apporte tout simplement des informations nouvelles sur des solutions alternatives pour une ville durable. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est profondément ce qui nous anime. La matinée a été riche en échanges et les conférences thématiques de cet après-midi vont approfondir les sujets de l'urbanisme avec Paul Le Quart, mais aussi le sujet des façades et toitures végétalisées avec le lancement du premier guide que nous avons conçu en partenariat avec des partenaires de la Grappe et des membres de la Grappe, et guide qui sera disponible et commandable naturellement dès ce jour. Nous avons aussi cet après-midi la présentation de notre démonstrateur d'agroécologie urbaine qui sera détaillé, avec même un regard international sur ce qui se fait en démonstrateur d'agroécologie urbaine dans le monde par le tour d'horizon qu'en fera Alexis Lefebvre. Le monde change, nos entreprises s'adaptent et c'est finalement cette intelligence entre les TPE, des PME et des grands groupes que nous essayons de cultiver au sein de cette grappe et c'est cette intelligence qui probablement, couplée avec les talents et le potentiel de ce territoire si particulier qu'est l'Ouest parisien et la région d'Île-de-France, qui permettra de mettre en œuvre des démonstrateurs innovants et des initiatives du type de la publication de ce guide. Nos entreprises, finalement, sont à l'origine des propositions et des défis de la ville de demain et des métropoles de demain. Nous, entrepreneurs, nous devons être proactifs et nous sommes à l'origine, probablement, du rebond nécessaire de ce pays. Un grand merci à l'équipe organisatrice. Je ne peux que vous demander d'applaudir Daphné Beaufle et Aurélie Lafont, qui depuis plusieurs semaines et plusieurs mois travaillent sur cette réussite et aussi le travail des membres de notre association, de Marie-Christine, qui a beaucoup travaillé sur le contenu des conférences. Merci Marie-Christine. Et surtout, voilà, on peut l'applaudir aussi très largement. Voilà. Merci surtout à nos partenaires historiques, parce que notre association, c'est la volonté d'entrepreneurs, mais elle n'existerait pas si les instances territoriales et politiques ne nous avaient pas, je dirais, incités et ne nous avaient pas soutenus. Naturellement, la DATAR, puisque nous sommes une grappe d'entreprises labellisées par la DATAR, qui a été le principal pourvoyeur de fonds et sur lequel, pendant les trois premières années de notre existence, nous lui redevons de notre existence. Naturellement aussi, la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, son maire a introduit cette journée, mais c'est permanent et sont très actifs à nos côtés, nous accueillent et sont des véritables partenaires actifs dans la vie de notre association. Nous remercions aussi le conseil général des Yvelines. Je suis extrêmement honoré que deux de ses membres, deux conseillers généraux, soient là jusqu'à la fin de cette matinée. Donc merci, ça veut dire que le sujet est un sujet qui intéresse le conseil général, qui du reste a un plan nature extrêmement ambitieux. Remercier aussi naturellement la Chambre de commerce qui nous suit depuis notre création et qui nous accompagne dans certaines publications. Des remerciements spéciaux pour cette journée, parce que financièrement nous avons été soutenus aussi par l'agence de l'eau Seine-Normandie qui a été présente dans le contenu, mais aussi dans les supports pour cette journée. Et un grand merci à l'agence des espaces verts et aussi à Peugeot Citroën, PSA, le groupe, qui, dans le cadre de ses plans de revitalisation, nous a accompagnés dans cette journée et nous les en remercions particulièrement. Notre association se développe, de nouveaux membres nous ont rejoints ces dernières semaines. La mise en œuvre de démonstrateurs est en construction et le premier démonstrateur sera ouvert dès le printemps 2014 et vous serez invité à le visiter. La sortie cette semaine du premier guide est un acte aussi très concret dans la diffusion de connaissances. Ce ne sont pas des règles professionnelles, c'est un guide pour permettre aux maîtres d'œuvre faire le moins de bêtises possible. C'est en fait un guide qui est en fait un guide pour pouvoir trouver des solutions aussi bien peu coûteuses avec des systèmes de câbles que des systèmes historiques de vignes vierges, etc., que des systèmes plus sophistiqués, mais en se donnant les meilleurs moyens pour faire le moins de bêtises possible et donner réussite au premier pas d'une végétalisation plus intensive en ville. Naturellement, nous avons aussi, dans nos actions très concrètes, nos groupes de travail, et je vous invite sur le site internet de l'association à découvrir nos actions. Nous travaillons sur les sujets de monétarisation, qui sont des sujets nouveaux, sur les sujets d'indicateurs dont a parlé Michel Le Sommer. Nous travaillons aussi sur l'amélioration de la formation, avec notamment des formations de jardiniers durables ou de maîtres jardiniers, qui sont des choses aussi innovantes, qui sont partagées au sein de nos équipes. Autant d'initiatives que je vous invite à découvrir sur les stands de nos membres présents ou ceux qui seront présents aussi au cocktail et qui sont membres de notre association. Tout ceci se trouve au rez-de-chaussée du Palais des Congrès. Et surtout, j'insiste sur le fait que ces premiers ateliers, finalement, c'est probablement la première pierre d'une série d'ateliers qui se succéderont. Le but est de progresser dans les années à venir, d'abord dans un dialogue entre les urbanistes, les architectes, les agronomes, dialogue que nous ne trouvons pas effectivement peut-être au niveau de l'enseignement supérieur, mais c'est à nous, peut-être, entreprise, par la relation que nous avons avec l'enseignement et la recherche, de le provoquer, de l'accélérer. Et les choses bougeront. Donc ces premiers ateliers en appelleront d'autres. Je vous remercie de votre participation et de votre écoute active.